La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots sur RFI, qui aujourd'hui voudrait donner un coup de projecteur sur une langue extrêmement importante, tout à fait ancienne, et dont on se préoccupe trop peu, et qui a trop peu de visibilité, me semble-t-il, comme si c'était une langue un peu sous-entendue. Il s'agit du syriaque. Et tout cela à cause de la parution tout à fait récente aux éditions des Belles Lettres d'un beau livre qui s'appelle Le Monde syriaque. Et quand je dis beau livre, je l'entends dans les deux sens. C'est un livre qui est très joli, qui est très beau, mais c'est aussi ce qu'on peut appeler un beau livre, c'est-à-dire qu'il est richement orné. Il y a de très belles illustrations, il est très clair, on en apprend beaucoup. Ça fait un beau cadeau pour Noël, Le Monde syriaque. Donc sous-titré « Sur les routes d'un christianisme ignoré », un livre qui est signé par Françoise Briquel-Chatonnet et Muriel Debier. Bonjour à toutes les deux, Françoise Briquel-Chatonnet et Muriel Debier, et merci donc pour ce monde syriaque. Alors la première question est très simple, qu'est-ce que c'est que cette langue syriaque, qui évoque bien sûr la Syrie, l'étymologie est la même, il ne s'agit pas du tout d'une langue syrienne ou d'un arabe syrien, bien que... Il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent se tuiler. Donc, qu'est-ce que le syriaque et depuis combien de temps cette langue existe-t-elle ?
Alors, le syriaque est une forme de l'araméen. L'araméen est une langue qui est attestée par des inscriptions depuis le 9e siècle avant Jésus-Christ, qui descend sans doute de formes de langage parlées avant, mais dont on n'a pas d'attestation parce qu'on ne l'écrivait pas. C'est à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ qu'on écrit l'araméen. Et le syriaque précisément est le nom qu'on donne à la forme de l'araméen utilisée par les chrétiens du Proche-Orient, les différentes églises du Proche-Orient. Et cette forme est celle que l'araméen avait pris à Édesse. Édesse est une ville qui s'appelle maintenant Saint-Urfa, qui est en Turquie, mais ça correspond quand même à la grande Syrie de l'Antiquité. Et donc, c'est une des variantes de l'araméen syrien de l'époque hellénistique et romaine. Et donc, dans cette petite principauté, on avait une forme de l'araméen qu'on peut appeler édessénien, puisque c'est d'Édesse. Mais vu le rôle qu'a joué Édesse dans la christianisation du Proche-Orient, et notamment le passage du christianisme vers toute la Mésopotamie, c'est sa langue, celle dans laquelle on avait traduit la Bible en araméen, celle dans laquelle on a traduit l'Évangile en araméen, qui est devenue la langue des chrétiens du Proche-Orient.
Alors, quand vous parlez de cette langue syriaque, de façon très spontanée, vous l'associez au christianisme. Et vous dites que c'est l'une des variantes de l'araméen, alors que l'araméen ou les araméens ne sont pas forcément des langues qui sont systématiquement associées au christianisme. L'araméen était donc parlé par un certain nombre de populations ancienne, puisque on vient de remonter au 9e siècle avant l'ère chrétienne, des populations qui n'ont pas forcément été convertis au christianisme.
Alors, au 9e siècle avant Jésus-Christ, il s'agit de populations qui avaient des cultes divers que globalement on appellerait polythéistes. L'araméen est devenu, pendant le premier millénaire, la langue internationale de tout le Proche-Orient. C'est-à-dire
alors, qu'entendez-vous par la langue internationale?
Eh bien, la langue qui servait à parler d'un état à l'autre entre des gens qui ne chez eux, ne parlaient pas araméen. On a un exemple dans la Bible, le livre des rois, au deuxième livre des rois, chapitre 18, quand le roi d'Assyrie est sous les remparts de Jérusalem, le roi d'Assyrie, sa langue, c'est l'assyrien, à Jérusalem, on parle hébreu, eh bien, pour les discussions
diplomatiques,
enfin, il s'agit d'un siège,
guerrière,
et
oui.
Voilà, et le roi de Jérusalem propose naturellement qu'on parle en araméen. Ça a été ensuite répandu par l'Empire perse, depuis le sud de l'Égypte jusqu'à l'Afghanistan. Donc c'était vraiment une langue qui n'était pas forcément parlée partout, mais qui en tout cas servait de langue administrative, de langue politique un petit peu partout.
Donc une langue qui dépassait les frontières et qui dépassait les États. On peut penser que cette caractéristique pour une langue est quelque chose qui va la minorer ou lui briser les ailes d'une certaine façon. En lisant votre livre, on a l'impression que ça a été l'une des chances de l'araméen, plus encore peut-être du syriaque, de n'être pas associé à un État, à une population, à un pays d'une certaine façon. C'est une langue, vous disiez, internationale, il y a un instant. Bon, on parle d'internationalisme tel qu'on peut l'entendre dans la Mésopotamie et les pays qui sont un petit peu autour. Il y a donc, 3000 ans. Mais c'est une langue qui n'a pas été, justement, associée à un seul pays.
Oui, c'est certainement ce qui a fait sa force. Avec l'arrivée du grec suite aux conquêtes d'Alexandre le Grand à la période hellénistique, donc on est toujours avant la période chrétienne, une nouvelle langue est venue concurrencer l'araméen pour ses fonctions de langue officielle et de langue d'empire. Et donc on passe dans un monde qui est encore plus multilingue qu'auparavant, puisque on a le grec comme langue à la fois courante pour les échanges, mais aussi comme langue des royaumes que l'on appelle hellénistiques. L'araméen va disparaître comme langue officielle, mais va se subdiviser et surtout reprendre des formes locales. Et c'est là que le syriaque apparaît en tant que tel, c'est-à-dire cet araméen d'Édesse, de la région qui est aujourd'hui en Turquie du Sud-Est. Cette forme d'araméen va devenir la langue d'une petite principauté, sans grande importance d'un point de vue géopolitique. Mais ce qui va faire que cette langue va dépasser le rôle que vont avoir les autres araméens locaux, puisqu'on a d'autres araméens locaux, on en a à Tra, on en a à Palmyre, on en a dans plusieurs cités-états du Proche-Orient, on en a bien évidemment en Palestine. Ce qui va faire le succès tout à fait particulier de cette forme-là d'araméen, c'est qu'elle devient la langue des chrétiens, avec la traduction, comme le disait ma collègue, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et donc, cette langue va devenir une langue de culture, et plus seulement une langue parlée ou une langue de l'administration. Et d'une certaine manière, c'est ce qui va faire son succès. C'est-à-dire qu'elle n'est pas portée par un État, ou elle n'est plus portée par un État à partir du moment où la petite principauté d'Édesse passe sous domination romaine, et va perdre de son importance, j'allais dire, au niveau impérial. Mais en revanche, elle va en gagner sur le plan culturel, puisqu'elle va devenir la langue de culture de tous ceux qui parlaient l'araméen et qui se sont convertis au christianisme, mais pas seulement, puisque cette langue était aussi la langue des juifs d'Édesse et la langue des polythéistes d'Édesse. Et ces populations non chrétiennes vont continuer à utiliser le syriaque. Nous n'avons pas conservé de manuscrits de forme écrite, si vous voulez, de cet usage, mais nous savons que au IXe siècle de notre ère encore, des polythéistes écrivaient en syriaque des œuvres à la fois historiques et scientifiques, des œuvres également religieuses, que nous n'avons plus, mais qui étaient lues par les auteurs de langue syriaque encore au XIIIe siècle de notre ère.
Alors, on apprend en lisant votre livre que, bien sûr, la langue grecque a connu beaucoup d'importance, que beaucoup de gens qui n'avaient pas cette langue comme langue maternelle s'en sont servis pour communiquer, et qu'elle a fait un peu d'ombre, d'une certaine façon, à la langue syriaque. Et que, malgré tout, la langue syriaque a continué à exister en sous-main, d'une certaine façon, et n'a pas perdu de son importance. Quel est le rapport entre le grec et le syriaque, justement, dans toute cette partie de l'Asie mineure et un petit peu plus à l'est, dans la Turquie ou la Syrie actuelle ?
Alors, je pense que ce qui a beaucoup joué, ce qui a beaucoup joué, ce sont les divisions ecclésiales. C'est-à-dire que même si la division s'est faite sur des questions théologiques, sur des questions politiques, sur des questions culturelles, de fait, au bout d'un moment, les églises qui se sont séparées de l'église impériale, suite au concile d'Éphèse et de Chalcédoine, ont développé une littérature et une liturgie et toute leur culture dans d'autres langues, et pour le Proche-Orient, en syriaque. Et de fait, il y a eu un développement d'écrits en syriaque et de toute une culture qui a été un peu éclipsé, parce que dans notre monde, c'est la culture de l'église impériale qui est la mieux connue, la culture de l'église byzantine, et donc le grec, mais le syriaque s'est très largement développé dans d'autres églises.
La danse des mots, toujours avec vous, Françoise Bricquel-Châtenay et Muriel Debier, à propos de votre ouvrage « Le monde syriaque ». Et on s'intéresse tout spécialement, bien sûr, non seulement au monde syriaque, mais à la langue syriaque. Alors, Muriel Debier, on sait qu'a existé, par exemple, pendant très longtemps, au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à il y a 200 ou 300 ans, ce qu'on appelait la lingua franca en Europe, qui était une langue commerciale, qui était un mélange d'arabe, de français, de beaucoup de langues, dont beaucoup de commerçants autour de la Méditerranée se servaient. Quand on lit votre ouvrage sur la langue syriaque, on n'a pas l'impression que c'était un genre de lingua franca. Est-ce que le syriaque était une langue commerciale? À quoi servait cette langue, en fait? Comment l'utilisait-on et qui l'utilisait?
Alors, vous avez raison, cette langue n'est pas une langue du commerce. En revanche, elle s'est répandue sur les routes commerciales. Et c'est ce qui fait
certainement... Le long de la route de la soie, par exemple.
Voilà, exactement. Le long des routes de la soie, les routes terrestres, par l'Asie centrale jusqu'en Chine et en Mongolie, mais également les routes maritimes, par le golfe Persique et jusqu'en Inde. Puisque l'Inde et les chrétiens d'Inde disent avoir été évangélisés par saint Thomas, qui avait été d'ailleurs vendu, selon les actes de Thomas, par un marchand. Et donc, le syriaque s'est répandu sur les routes commerciales parce que les missionnaires, les moines, les prêtres, mais également les marchands eux-mêmes, connaissaient le syriaque, parlaient le syriaque et surtout avaient dans leur bagage la Bible en syriaque. Et c'est ainsi que cette langue est allée bien au-delà du monde méditerranéen vers l'Extrême-Orient, le long des routes commerciales. Mais cette langue n'était pas la langue dans laquelle on échangeait au quotidien, puisque en Asie centrale étaient parlées toutes sortes d'autres langues, comme le ouïghour, le sogdien, des langues turco-mongoles, plus près de la Chine, le chinois bien évidemment. Et donc le syriaque n'était pas utilisé dans le cadre des échanges. En revanche, il était utilisé comme langue de l'Église, en particulier de l'Église de l'Est, l'Église de Perse, qui est très peu connue en Europe, qui est aujourd'hui l'héritage, si vous voulez, de deux églises, qui sont l'Église assyrienne et l'Église chaldéenne, qui sont plus familières peut-être aux auditeurs, parce que ce sont les églises qui sont aujourd'hui en Irak, en Syrie et également en Iran. Et donc cette Église de l'Est a été missionnaire et a apporté le syriaque dans ses bagages, mais le syriaque n'était en effet pas la langue des échanges.
Alors Muriel Debier, vous venez d'évoquer la Bible en syriaque. À partir de quel moment parle-t-on d'une Bible en syriaque? Quel est le rapport de cette langue avec les textes sacrés du judaïsme et du christianisme?
Alors, les traductions de la Bible en syriaque sont très anciennes, puisque les premières datent du deuxième siècle de notre ère. On a une traduction qui a été faite directement de l'hébreu en syriaque, vraisemblablement dans la région d'Édesse, et vraisemblablement dans des milieux juifs, ou des milieux de juifs convertis, qui connaissaient donc l'hébreu et qui étaient capables de traduire du syriaque dans leur langue locale, qui était donc l'araméen d'Édesse, le syriaque.
Mais il n'y a pas de texte, au départ, de texte biblique qui a été écrit directement en syriaque.
Non, c'est quelque chose que l'on entend souvent dire, par exemple, qu'il a existé un évangile écrit en araméen. Alors, nous n'avons pas de traces de l'existence d'un tel évangile. Les évangiles ont été écrits en grec. En revanche, ils ont été traduits très tôt, dès 150 de notre ère, oui, en syriaque.
Et alors, pourquoi ont-ils été traduits? À destination de qui? Pourquoi cette activité de traduction, justement?
Alors, ils ont été traduits pour répondre aux besoins des communautés de langue syriaque, justement, qui se trouvaient en Mésopotamie du Nord et qui avaient besoin d'une traduction dans leur propre langue de textes qui avaient été écrits en hébreu pour l'Ancien Testament, en hébreu et en araméen, et en grec pour le Nouveau Testament. Et on a cessé de traduire et de retraduire ensuite du grec en syriaque l'Ancien et le Nouveau Testament jusqu'au VIe siècle de notre ère. On a ainsi des retraductions qui s'adaptent à la fois au modèle grec et aux besoins donc des populations locales.
Alors, puisqu'on a encore un contact avec cette langue et qu'on peut la lire, c'est bien qu'elle a été écrite et qu'elle a été écrite très tôt. Le problème qui se pose, bien sûr, c'est de savoir comment l'écrivait-on, comment l'écrit-on. À quel alphabet est-ce qu'on a recours pour écrire le syriaque?
Alors, l'alphabet...
Françoise Bruyckel-Chatonnet.
L'alphabet syriaque est une forme évoluée de l'alphabet araméen qui lui-même dépend d'un alphabet inventé au début du premier millénaire qu'on appelle couramment phénicien, mais qui était l'alphabet commun de toutes les populations du Levant. L'alphabet araméen s'est peu à peu différencié de celui qu'on parlait sur la côte, qu'on écrivait sur la côte, ou qu'on écrivait dans la Palestine. Et donc, il a pris des formes spécifiques qui sont très nettement reconnaissables à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et cet alphabet a évolué, et justement, il est resté assez unifié à l'époque perse, mais à partir de l'époque hellénistique, de
la
superposition du grec à partir de la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ, justement, comme l'écrit officiel est devenu le grec, aussi bien langue que écriture, ce sont sous des formes locales qu'il a évolué. Il n'y a plus eu ce phénomène d'unité, ni pour la langue, ni pour l'écriture. Et donc, à Édesse, on a une écriture particulière qui a certains liens avec l'écriture de Palmyre, par exemple, mais qui est quand même très nettement différente.
Mais on parle vraiment d'un alphabet.
Un alphabet consonantique, comme tous les alphabets sémitiques.
C'est-à-dire
qu'on écrit comme les consonnes,
oui,
comme en hébreu ou en arabe.
Est-ce qu'il y a des signes, ce qu'on peut appeler des signes diacritiques, des accents, des points, etc., qui de temps en temps donnent des indications sur la vocalisation, justement, de la langue?
Alors, ils ont été inventés relativement tard, à partir du 7e siècle de notre ère et plus tard, mais jamais utilisés de façon systématique. La plupart des manuscrits ne les utilisent pas, ou mettent un point au-dessus ou au-dessous qui veut dire, attention, quand il y a une ambiguïté, ça peut être tel mot ou tel mot. C'est presque à des époques très récentes, quand le syriaque est un peu sorti de l'usage, que les gens le connaissaient beaucoup moins, qu'on a eu besoin de cette aide. Mais globalement, le population se sont passées de voyelles pendant longtemps.
Oui, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'alphabets comme ça qui ne fonctionnent qu'avec des consonnes et qu'on oralise parce qu'on sait de façon culturelle si c'est plutôt A, A, I, O, etc. Et que ce qu'il faut connaître, c'est vraiment ce qui donne la route à suivre, c'est les consonnes.
Mais c'est parce que quand on connaît la langue, on reconnaît les mots et on peut les lire. Et comme en hébreu et en arabe, en général, on vocalise soit des textes pour enfants, parce que c'est l'apprentissage, soit le texte sacré, parce que là, il ne faut pas se tromper.
La danse des mots, toujours à propos de cette langue syriaque, qu'on connaît bien grâce à des textes sacrés, grâce à des textes chrétiens, qui mettent en avant un certain nombre de personnages qui sont peut-être plus connus en syriaque que dans d'autres langues. Alors, il y a des personnages très portés par ces textes. Quels sont les principaux, Muriel Debier?
Alors, parmi les personnages qui apparaissent dans les textes syriaques et qui sont là pour raconter l'histoire de la christianisation de ce monde du Proche-Orient et de l'Extrême-Orient, il y a l'apôtre Thomas, évidemment, qui apparaît dans des actes apocryphes et qui raconte comment Thomas, vendu par un marchand, est arrivé en Inde et a converti la fille du roi des Indes en mettant en avant donc les caractéristiques de ce christianisme ancien qui était des formes de refus du mariage et de mise en avant du célibat. Donc une forme très, très ancienne de christianisme. Un autre personnage très important qui raconte là en revanche la christianisation de la Mésopotamie du Nord, c'est le roi Abgar, roi de la ville d'Édès, et l'apôtre Adai.
Alors cet Adai, on en entend parler beaucoup en syriaque et très peu dans d'autres langues.
Alors pour une raison aussi, c'est que en grec, il est connu sous le nom de Thaddée.
Oui.
Et il est très connu dans la tradition arménienne, qui le considère comme un saint et qui considère également le roi Abgar à la fois comme un roi arménien et comme un roi saint. Mmh. Alors, pourquoi Abgar est-il important? C'est parce qu'il est censé avoir écrit à Jésus et avoir reçu de Jésus une réponse dans laquelle celui-ci lui annonçait l'envoi d'un apôtre, l'apôtre donc Adai ou Thaddée, et lui a donné également une protection pour sa ville d'Édesse. Et donc ce texte a été très important pour la culture syriaque puisque on avait là une protection donnée par Jésus lui-même qui disait que Édesse ne serait pas prise par ses ennemis. Et bien évidemment dans cette zone frontière entre l'Empire romain et l'Empire perse et plus tard située à la frontière de différents pouvoirs arabes, musulmans et ensuite francs, cette protection était particulièrement importante. Et par ailleurs, ajouté à cela, s'est développée l'histoire d'un portrait, le portrait de Jésus, que l'envoyé du roi Abgar, son secrétaire Hanan, était supposé avoir peint de sa main, ou bien, selon une autre version, ce portrait serait le résultat du fait que Jésus aurait passé un linge sur son visage, et ce linge que l'on appelle le mandilion a été aussi un des protecteurs de la ville d'Édesse, a été acheté par les Byzantins en 944 et est arrivé à Constantinople et aurait ensuite voyagé jusque en Europe, jusqu'à Rome et même jusqu'à Paris et aurait disparu au moment de la Révolution française.
Oui. Alors, on n'est pas très loin de la légende de Véronique. Est-ce que ce sont deux légendes qui se tuilent? Est-ce que l'une est à l'origine de l'autre? Qu'est-ce qu'on sait de leur relation?
Alors, on ne sait pas grand-chose de leur relation, sinon que l'histoire de Véronique a connu un succès beaucoup plus important en Occident que l'histoire d'Abgar. Mais en Orient, cette histoire d'Abgar était extrêmement populaire et elle est représentée dans les manuscrits arméniens ou bien sur des icônes de manière assez courante. Et donc, ce sont en quelque sorte deux histoires concurrentes hein, qui se sont développées à l'est et à l'ouest de la Méditerranée pour se rencontrer quand même finalement à Rome et à Paris.
Alors on voit à travers tous ces textes en syriaque l'importance d'un orientalisme du christianisme. Et il y a des personnages dont on se représente toujours qu'ils viennent d'Orient, qui sont les rois mages. Est-ce qu'eux aussi, ils ont des histoires particulières que la langue syriaque a fait renaître? Ces rois mages que parfois on se représente au nombre de 3 et qui parfois arrivent à 12.
Oui, alors les rois mages, d'après les évangiles, sont venus d'Orient. Et l'Orient de la Palestine, on arrive en Mésopotamie. Donc les rois mages ont été vraiment revendiqués par les chrétiens de Mésopotamie comme leurs ancêtres et comme les premiers à avoir reconnu le Christ, bien avant même la vie publique du Christ, ce qui leur donnait une antériorité. Donc effectivement, selon les traditions, ils sont dans nombre différent, et la tradition syriaque en reconnaît en général 12. Ils ne sont pas rois d'ailleurs, c'est des mages venus...
Alors, qu'est-ce qu'on appelle un mage en fait?
Alors, ce qu'on appelle un mage, c'est au sens propre un prêtre de la religion zoroastrienne. Bon, là je crois qu'il s'agit de quelque chose de plus large qui veut dire une personne avertis des choses sacrées de l'Orient. Et donc ça a été quelque chose qui a été vraiment revendiqué par la fameuse église d'Orient, cette église de Mésopotamie, née en dehors de l'Empire romain, comme étant leur fondement et justifiant une précédence de l'église de Mésopotamie sur les églises du monde romain, y compris Rome par exemple. C'est-à-dire que Rome n'est qu'un patriarcat dépendant de l'église mère qui est l'église de Mésopotamie.
Oui, la tradition des rois mages s'appuie d'ailleurs sur des traditions perses où ces mages sont aussi capables de lire les signes célestes et notamment de lire dans les étoiles.
Ah oui, ils suivent voilà. Leur chemin
et donc
en suivant l'étoile.
Ils suivent l'étoile que l'on appelle souvent l'étoile du berger pour arriver jusqu'à Bethléem.
Ben écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Muriel Debier et Françoise Bricquel-Chatonnet. Merci aussi à ce livre que vous avez écrit, Le Monde Syriaque, sur les routes d'un christianisme ignoré, qui nous rapproche beaucoup de cette langue extrêmement importante dont on parle peu, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Il y a encore des gens qui parlent le syriaque, Muriel Debier ?
Alors il y a encore des gens qui parlent le syriaque, surtout dans les milieux ecclésiastiques, dans les monastères, par exemple, de Turquie du Sud-Est, que nous avons eu l'occasion d'évoquer. Et puis surtout, il y a aujourd'hui des locuteurs d'araméen moderne qui sont dans la liturgie et le syriaque, et dont le syriaque est la langue classique, un petit peu comme pour nous le latin en Europe. Et donc, ils parlent des araméens modernes, mais souvent connaissent, au moins au travers de la tradition de l'Église, le syriaque, qui est la langue classique.
Eh bien, merci encore à toutes les deux d'avoir été dans cette Danse des mots, qui est une émission proposée par le réseau Canopée et par RFI. Je rappelle donc le titre de votre livre, Le Monde Syriaque, paru aux Belles Lettres. Et je rappelle aussi que la Danse des mots est proposée par le réseau Canopée, par RFI, Ludivine Amado, Véronique Durand, Lucie Boutelou, Yvan Amar.